France Inter.
Bienvenue dans Au Livre, etc. Aujourd'hui, trois romans portés par des voix de femmes qui scrutent les origines, familiales, intimes ou mythiques, pour comprendre ce qui nous relie et ce qui nous hante.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord Valentine Gobi avec son 15e roman, Le Palmier, publié chez Actes Sud, où l'histoire d'une fillette qui s'appelle Vive et qui voit un élagueur couper le palmier du jardin familial rongé par un insecte. C'est le tout début du livre et déjà on comprend que cette image est symbolique d'un danger, d'une dévoration invisible liée à un événement du passé. C'est une fable sensorielle dans laquelle l'autrice fait de la mort d'un arbre l'apprentissage de la fragilité du monde. J'aurai le plaisir de recevoir aussi la romancière Geoffrine Donadieu avec Aux nuits à venir chez Gallimard. Marge, 34 ans, vit chez sa sœur cadette, Violette, psychiatre installée à Paris. Un matin, une dispute éclate, Violette la met à la porte. Commence alors pour Marge une errance hallucinée dans un immeuble en chantier où elle rencontre Victor, un homme plus âgé aussi perdu qu'elle. Entre eux naît une histoire d'amour impossible faite de désir, de peur et de folie. C'est un roman sur la frontière entre lucidité et délire et sur l'amour comme dernier refuge face au chaos. Et enfin, nous parlerons d'un premier roman qui a marqué la rentrée littéraire, Nourrice de Séverine Cressant, paru aux éditions d'Alva. Sylvaine, qui est nourrice donc, découvre une nuit de pleine lune un nouveau-né abandonné dans la forêt. Elle décide de l'allaiter, de le sauver au risque de tout perdre. L'autrice oscille entre chronique paysanne et conte mystique, mais surtout elle redonne voix aux femmes du soin et de la transmission. C'est un roman charnel qui est traversé par la question du corps et du sacré. Trois textes, trois romancières de l'imaginaire et une question, comment transmettre ou inventer quand les racines tremblent? Nous en parlerons tout au long de l'émission avec nos invités et nos libraires francophones. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Valentine Gobi, Geoffrine Donadieu, Séverine Cressant, bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors chacun de vos livres explore un versant de la condition féminine, l'enfant chez vous, Valentine Gobi, la femme chez Geoffrine Donadieu et la mère chez Séverine Cressant. J'ai une petite question générale pour commencer. En quoi le féminin chez vos personnages est-il à la fois une source de vulnérabilité et de puissance, Valentine Gobi?
Je ne considère pas que le féminin est au cœur de ce livre.
L'exergue de votre livre, autour de la nudité et de la solitude, le rôdeur rôde.
Oui. Et ça n'est pas du tout en relation avec le sexe de la petite fille. La petite fille, c'est un double pour moi, puisque c'est une enquête que je mène avec elle, avec un personnage de fiction que j'ai missionné pour m'éclairer moi-même sur une vision très déroutante et très choquante. On est bien dans la fiction et je crois que j'étais... de manière évidente, reliée à une petite fille, voilà. La vulnérabilité, pour moi, là, elle relève de l'enfance.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait,
pas du tout
là,
du
chez vous, c'est même pas sur le fait que ce soit une petite fille, c'est le fait que ce soit une enfant.
C'est le moment où on est dans un rapport de première fois constante avec le reste du monde. Tout est nouveau, tout est choc. Porosité extrême aux joies, à la lumière, comme aux ténèbres, à la peur et au chagrin. Ce qui fait de l'enfant un être en vigilance, à vif, en permanence, et puis un être qui invente sans cesse des réponses aux questions pour lesquelles il n'en a pas, grâce à son imaginaire, grâce à son observation et à sa sensorialité. Il n'y a pas vraiment de frontière entre l'enfant et le reste du monde, puisqu'il n'a pas encore appris à se construire, il n'a pas encore appris à interpréter, il n'a pas de distance vis-à-vis des événements qu'il traverse.
Et chez vous, Geoffrine Donadieu, alors vous, le féminin est bien présent.
Oui, Marguerite dite Marge, qui a 34 ans, est un personnage en couleur. C'est avant tout une femme libre qui ne travaille pas, qui est sans logement fixe. Et je crois que j'ai voulu, à travers ce roman, explorer toutes les facettes de Marge, aussi sombre soit-elle, aussi complexe soit-elle. Et tout cela passe par des personnages, des créatures, comme elle les appelle, qui l'habitent et qui vont révéler une de ses facettes.
Et chez vous, Séverine Cressant?
Alors, dans mon roman, Nourrice, c'est vrai que les femmes sont à la fois très vulnérables, dans le sens où leur corps est vraiment exploité par des hommes, puisque ces nourrices dont Sylvaine vendent leur lait maternel. Donc leur corps est clairement marchandisé. Et dans ce sens-là, ce sont comme des proies pour certains prédateurs qui les voient comme des sources de profit, hein, qui veulent simplement faire de l'argent sur leur dos. D'autre part, elles sont effectivement puissantes dans le sens où ce sont elles qui enfantent, ce sont elles qui donnent la vie, qui sauvent aussi les nouveau-nés. Et donc il y a vraiment cette ambivalence, hein, tout au long du roman de la vulnérabilité et de la puissance.
Vos héroïnes sont aussi trois figures marginales, d'une certaine manière, trois figures que la société ne regarde pas. L'enfant, par définition, Valentine Gobi, vive à un but dans votre livre, devenir indétectable. Vous employez ce mot.
Oui, mais ça arrive parce qu'un événement s'est produit. En fait, c'est une petite fille qui grandit dans un jardin magnifique, merveilleux.
Mais il y a quand même un traumatisme, il s'est quand même passé quelque chose.
Oui, c'est ça, mais ça, c'est important, je pense, de contextualiser le surgissement de cette image de palmier mort à laquelle elle est confrontée un jour qu'elle sort dans un jardin qui est d'abord le lieu de l'enchantement, qui est d'abord l'Éden, qui est le royaume de l'initiation. Elle converse avec les plantes, les arbres. Elle est dans une matrice, elle a été mise au monde dans un autre monde.
C'est pour ça que matrice, le mot matrice, quand je vous posais la question du féminin,
oui, mais pour moi, elle, il y a quand même cette question. Qu'elle soit fille ou garçon, ça ne change rien. Non, mais après, moi, je ne rejette pas du tout le questionnement sur le féminin, mais il se trouve que là, c'est vraiment le territoire,
oui,
de l'enfance,
territoire
en fait, qui m'intéresse. D'ailleurs, dans le roman précédent, j'avais un personnage qui avait 12 ans, quelques années de plus, qui était un petit garçon, et le fait qu'il soit un garçon n'apportait rien non plus au personnage, en fait. C'est différents âges de la vie,
oui,
mais du
sûr.
Coup, j'ai un petit peu oublié votre question.
Sur la marginalité de l'enfance, le fait
qu'on ne regarde pas.
Oui, qu'on la regarde pas.
Oui, alors c'est formidable aussi de pas être regardé. C'est-à-dire que c'est pas forcément une souffrance, ça peut le devenir quand on fait pas attention, en effet, à ce qui blesse, à ce qui fait mal. L'enfant a besoin de protection, mais en même temps, ne pas être regardé, c'est être libre. Cette petite fille, elle est en conversation avec les nymphes, avec les plantes du jardin. Elle essaye de comprendre en fait ce qui se noue entre le végétal, l'animal, et quelque part, ça lui offre des possibilités grandioses pour l'imaginaire.
Elle est dans une position d'observatrice.
D'observatrice et donc d'artiste, puisque ce monde-là, en fait, qui se juxtapose au monde réel et qui sera aussi nourri par les essences que son père ramène du monde entier, c'est un univers dans lequel piocher pour tenter d'accoler en fait sa propre vision du monde au réel, en dehors même du mode d'emploi ou des explications que pourraient livrer les adultes. La vraie question, c'est quand est-ce que c'est bon d'être regardé, quand est-ce que c'est bon en fait de traverser la solitude, et c'est sur cette ligne de crête en fait que se déroule le roman, c'est-à-dire qu'il y a des moments où quand on n'est pas regardé, en effet, on est abandonné.
Alors chez vous, Geoffrine Donadieu, votre héroïne s'appelle Marge, donc déjà elle porte bien son prénom. Vous écrivez qu'elle est sans adresse fixe, pas de boîte aux lettres, elle ne reçoit ni facture, ni vœux, ni faire-part.
Oui, et c'est une grande liberté. Elle n'est pas envahie par des sollicitations, par toute forme de règlement. Elle n'a pas de compte à rendre avec la société et elle se bat tous les jours pour ne pas rentrer dans une case. Et bien sûr, ça va lui jouer des tours, puisque on la rencontre au début du roman quand elle se retrouve à la rue et qu'elle va emménager dans une cabane de chantier abandonnée sur un échafaudage. Mais le fait de ne pas avoir d'emploi du temps, de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir de travail, lui donne la possibilité d'être entière avec ses émotions. Elle est en marge de la société puisqu'elle est envahie par des créatures qui lui demandent sans cesse de raconter des histoires. Mais je crois que ça, c'est le propre de l'écrivain.
Chez vous, Séverine Cresson, la nourrice, par définition, c'est du bétail. Vous employez le verbe stocker. Elles sont stockées dans des hangars à marchandises.
Tout à fait. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont marginales, ces nourrices, dans le sens où elles ont existé depuis toujours, hein, et elles sont très très nombreuses. Je pense que le terme qui conviendrait, c'est qu'elles sont invisibilisées. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je me suis intéressée à ce sujet-là. Autant j'avais entendu parler, en lisant des romans du 19e, du personnage de la prostituée ou de la courtisane, autant celui de la nourrice était vraiment invisibilisé. Alors qu'elles ont vraiment existé, mais en arrière-plan, sans doute parce qu'elles ce qu'elles faisaient était jugé comme méprisable, peut-être trop, j'ai envie de dire, terre à terre. Il y a quelque chose de trop charnel qui peut choquer aussi. Et dans ce sens-là, oui, elles sont, comme vous le disiez, elles sont considérées comme du bétail, comme des animaux dont on va tirer un certain profit.
Enfin, il y a un autre point commun dans vos livres, c'est l'image de la dévoration et du soin. Vos trois récits sont hantés par des formes de destruction. Un arbre rongé, une sœur rejetée, un enfant abandonné, mais aussi par le geste de réparer. On se retrouve dans un instant pour en parler, mais avant ça, on écoute Clara Luciani et Yamé Lemur.
que c'était que mon frère. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse. Elle est piquée, c'est mort, et va me rendre fou. Entre le studio et la scène, je suis dans le palace. Loin de toi et de nous, oui, d'une histoire d'amour. J'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Valentine Gobi, Geoffrine Donadieu et Séverine Cressant. Et je le disais tout à l'heure, dans vos livres, chaque héroïne essaie à sa manière de lutter contre la destruction, ou en tout cas cherche à sauver quelque chose. Valentine Gobi, que cherche à sauver vive?
C'est peut-être toute la question du livre, puisque je disais que c'est une petite fille qui mène une enquête à partir d'une image très mystérieuse. Son obsession va être de résoudre une énigme. Pourquoi est-ce que ce palmier mort couche une ombre qui va devenir une terreur insurmontable dans son existence? Elle est très combative parce que ses nuits vont être dévorées, avec le jardin qui se défeuille, la figure de ce type de tronc va finir par entrer dans sa chambre par la fenêtre, et puis va entrer dans sa tête et en fait coloniser, hanter absolument toute son existence. Alors ça pourrait la paralyser, mais par ailleurs, ça fait d'elle une aventurière et une combattante, puisqu'elle ne va pas cesser de chercher des stratégies pour tenter de déjouer cet automne dans la maison, comme elle l'appelle, qui finit par l'anesthésier. Et ses parents sont très impuissants, mais elle, en fait, d'hypothèse en hypothèse, d'invention en invention, essaye d'avancer sur un chemin qui est aussi celui du passage de l'enfance à autre chose, à un monde dans lequel on tremble, dans lequel les certitudes ne sont pas absolues, et où il faut faire face en fait, à des mystères qui sont plus grands que nous, non pas en allant se cacher sous le lit, mais en tentant vraiment de les dénouer, de les déjouer. Et donc cette dévoration, elle est intérieure bien sûr, et puis elle gagne le jardin autour, et donc on progresse avec les saisons dans son apprentissage aussi. En fait, c'est une double vigie, celle du jardin et celle de son existence, et ça fait d'elle aussi une héroïne.
Ce mot de vigie, il revient dans le livre, c'est un mot... C'est un mot qui vous est venu facilement. Enfin, comment, c'est quoi? C'est pour dire sa position d'observateur conservatrice. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce mot ?
Alors d'abord, il y a beaucoup de mots avec des V, parce que vive on a deux, et que c'est un prénom en forme de flèche. C'est presque aussi une célébration, ce prénom-là, à la fois extrêmement vivante et extrêmement déterminée, tout en étant extrêmement impuissante. Mais il y a des V partout, oui, et Vigie, en fait, c'est aussi le rôle qu'elle se donne dans cet espace du jardin qui est déserté par son père. Lui, il a un autre jardin, il a un jardin très éloigné, très exotique, il travaille dans les usines à parfums, puis donc il rapporte des essences de plantes qui viennent du monde entier, et paradoxalement, il ne connaît rien aux arbres du jardin. Il faut bien quelqu'un pour prendre soin, on a évoqué le soin tout à l'heure, et c'est sa mission.
Geoffrine Donadieu, vous, votre héroïne, Marge, qu'est-ce qu'elle cherche à sauver ?
Elle cherche à sauver des souvenirs. Il s'est passé quelque chose en 1996, une nuit. Elle sait qu'elle a fait quelque chose, peut-être un petit coup blanc. Et voilà, tout au long du roman, elle va essayer de résoudre cette énigme. Et cette énigme va la dévorer de plus en plus. Et heureusement, elle va pouvoir compter sur Victor, le dernier occupant des lieux, du 46 bis rue des Martyrs, pour l'aider à résoudre cette énigme. Donc pour répondre à votre question, Marge est dévorée par ce souvenir qui la hante. Et puis elle est dévorée par quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau, peut-être même que ce souvenir. C'est le désir qui naît, qui croît au fur et à mesure que l'histoire avance, avec cet ancien militaire qui est Victor. Donc voilà, je peux dire que tout le livre est centré sur cette énigme du petit coup blanc, et puis sur ce désir qui évolue, et cette histoire d'amour qui naît entre les deux protagonistes du roman. Vous me disiez tout à l'heure en off que Vive aurait pu être la petite fille qui devenait Marge, et Marge aurait pu être cette petite fille, mais je le pense totalement. Et puis même si Marguerite est en ville à Paris, elle se raccroche à un arbre, un vieil arbre rabougri qui est le Chitalpa de Tashkent, qui se trouve dans la cour de l'immeuble, et elle chérit cet arbre, elle aime cet arbre, et finalement voilà, elle est un petit peu comme Vive qui dans ce grand jardin chérit
qu'est-ce qu'il incarne cet arbre.
Mais cet arbre incarne le passé, et il incarne l'histoire, il incarne la vie, et il se trouve quand même dans un vieil immeuble qui est amené à être détruit, dont qu'il représente l'ancien, le passé et la future destruction. En fait, qu'est-ce qu'il y aura à la place de cet arbre qui contient justement mille histoires, comme la nature contient l'histoire, contient les récits, ce qu'on retrouve aussi
chez Valentine Gobie. Valentine Gobie, justement, nous avons avec nous en studio un libraire que vous connaissez bien, Thomas Auxerre, de la librairie L'Amandier à Puteau. Bonjour Thomas.
Bonjour Lilia, bonjour tout le monde.
Pour tout dire, c'est vous qui nous avez parlé du livre de Valentine Gobie en premier.
Eh bien oui Lilia, voilà une joie pour moi d'être en studio avec Valentine. Pour être tout à fait honnête, c'est une de mes écrivaines francophones préférées. Alors j'adore découvrir chacun de ses textes, c'est toujours l'un des premiers textes et un des premiers romans que je lis de la rentrée. Celui-ci n'a pas fait exception, je me suis jeté dessus dès cet été. Alors je dois dire qu'au premier abord, j'étais un petit peu surpris, parce que en général dans les textes de Valentine, on commence par une certaine gravité. Pour aller vite, je dirais qu'on va vers les ténèbres, on part des ténèbres et on va vers la lumière. Là, pas du tout. Le roman démarre en plein cagnard, dans un jardin luxuriant, solaire, avec une héroïne vive, pleine de vie, comme on a compris, curieuse de tout et à l'écoute du monde, mais avec nuances et petites touches, un petit nuage de gravité, d'angoisse même, va finalement obscurcir l'horizon de Vive. Un souvenir qu'elle pensait enfoui va se rappeler à elle, donc avec le palmier, on en a parlé, et on va frémir avec elle. Et pour moi, réussir à faire naître un doute, une angoisse, voir arriver le drame et le frôler, c'est vraiment ce qui fait la grande force de ce roman. Cette tension, en plus d'une écriture magnifique, musicale, organique, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai dévoré le livre en deux jours en fait. C'est bien simple, une fois que j'ai mis le nez dedans, c'était foutu, je n'arrivais plus à m'arrêter de lire.
Moi je confirme. Et ce livre, qui est donc un peu différent dans l'œuvre de Valentine Gobie, a suscité chez vous une question, Thomas Auxerre.
Il m'a semblé lire dans l'argumentaire du palmier fait par l'éditeur, et aussi dans la presse, Valentine, que ce livre était peut-être celui où vous aviez mis le plus d'éléments personnels. Alors je me demandais à quel point on veut ou on peut écrire sur soi et son enfance, même si j'ai entendu les réponses déjà un petit peu avant. Et est-ce que c'est facile et naturel de savoir où mettre le curseur de l'intime dans un roman et la fiction ?
Merci Thomas, je suis très touchée. Alors, je mentirais si je ne disais pas qu'en fait tous mes romans sont extrêmement intimes. et qu'ils plongent vraiment leurs racines dans des événements qui m'appartiennent. Simplement, c'est l'art du déguisement. Alors, ça se voit pas, je me déplace sur des territoires géographiques lointains, dans des époques que j'ai pas pu traverser. Cette fois-ci, je me cache moins parce que j'ai été une enfant, c'est vrai, baignée dans un jardin magnifique. J'ai eu un père parfumeur, en tout cas, de cet acabit-là, qui travaillait dans les usines à parfums et qui était une sorte de magicien, voilà, qui transformait les végétaux en résinoïdes, en essence. J'ai été cette femme qui, il y a 4 ans, dans le jardin de mon père, a vu un palmier mort et a été ébranlée par cette vision qui me semblait rouvrir une page archaïque de l'enfance, pour laquelle j'avais quelques intuitions, mais je savais qu'en fait, c'est la fiction qui m'amènerait à la vérité, comme toujours. Et donc voilà, j'ai missionné ce personnage dans lequel je me reconnais, mais qui est aussi mon guide. Et ça a vraiment été une enquête pour moi aussi. Et donc la forme du livre, ces 41 chapitres sont des morceaux de puzzle qui s'assemblent, que j'ai reconstruit beaucoup de fois, mais que j'ai vraiment écrit chaque fois comme des fragments, comme des espèces d'illumination, de révélation, qu'aller chercher ce personnage qui apprend des mots, qui observe des scènes incongrues, qui tente de les interpréter. De toute façon, j'ai été très habituée à l'enquête dans mon enfance, puisque l'exercice que fait vivre avec son père était un exercice aussi qui m'était très cher, c'est-à-dire voilà, ouvrir ses flacons et tenter de mettre des mots, des images sur ces odeurs inconnues dont souvent je ne connaissais pas le nom. J'avais ma forêt liquide aussi sur l'étagère. Et c'est une caractéristique première, en fait, hein, et de ma vie et de ce personnage. Et peut-être de l'enfance, puisque peut-être on peut revenir aussi à ce qu'on disait au tout début, hein, c'est-à-dire que l'enfance, c'est le grand moment de l'enquête. C'est le moment où on cherche à associer les mots, les images, le sens.
C'est un exercice très proustien aussi.
Oui, peut-être, mais je crois que ça n'a pas été inventé par Proust. Je crois
non,
que ça a été
tout.
Inventé par les
mais
enfants.
Mais lui-même donc, a quelque chose de l'enfance dans sa recherche.
Mais absolument, tout à fait.
Et, vous parliez de recherche, la recherche du temps perdu, c'est une recherche aussi.
Oui, tout à fait, c'est une enquête aussi, d'une certaine manière. Donc, je crois juste que c'est plus visible, mais que ce travail est toujours très présent, de savoir comment faire trembler quelque chose de très intime dans une histoire qui nous semble étrangère. Moi, j'ai l'impression d'aller chercher, en fait, des sujets, des thématiques qui me permettent de faire des explorations, parce que j'aime aussi l'aventure, j'aime aussi apprendre, pour comprendre pourquoi en moi, en fait, vient s'ouvrir une question.
Merci, merci beaucoup Thomas. Valentine Gobi, il y a un passage que j'aime beaucoup justement dans votre livre, c'est quand le père de Vive, Marco, lui raconte une histoire sur les molécules de synthèse utilisées en parfumerie. Il lui explique qu'on ne peut pas extraire l'odeur de la violette et que donc l'odeur de violette qu'on sent dans le commerce, c'est une odeur de synthèse. Vous écrivez « Rien ne peut détruire une fiction. Dans l'histoire de la violette qui n'est pas une violette, il y a un antidote à la mort. Qu'est-ce que vous vouliez raconter en creux à travers cette histoire de parfum ?»
En fait, tout est périssable. Et les végétaux du jardin, comme ceux qui permettent de fabriquer ces essences, qui plus tard permettront à Déné de fabriquer des parfums, elle fait une découverte extraordinaire, cette petite fille, incroyablement rassurante, mais qui ouvre encore un autre imaginaire, c'est en effet la chimie de synthèse. En fait, son père trouve toujours les moyens, d'une manière assez pédagogique et joyeuse, de lui expliquer des processus très complexes. Et donc, il lui fait sentir une violette, et puis ensuite, il lui montre qu'elle s'est trompée, elle est pourtant sûre, c'est sa fleur préférée, et donc ça ouvre la porte à cette invention, à cette création extraordinaire qui permet à la chimie de synthèse, justement, de produire des odeurs qui n'existent pas dans la nature. Et ben, ce qui n'existe pas dans la nature, c'est forcément immortel. Et donc le processus se met en route en elle. Il existe en fait des lieux, il existe des mots qui ne sont pas périssables. Et donc le palmier, lui, peut mourir, mais il y a un endroit en fait où on peut échapper à la mort. Et ça participe en fait du processus par lequel elle appréhende ce qui tremble derrière ce palmier.
C'est ce que vous faites en écrivant ?
Je travaille une matière première, comme le fait Marco, le père de Vive. C'est le réel ou c'est le langage, en fait, porter le réel au langage, ou la perception que j'ai du réel au langage, c'est en effet faire un travail de transformation qui me semble assez proche de celui de Marco.
Vive se sent elle-même devenir une, je vous cite, « fille de pure fiction », capable de se protéger des traumatismes. Est-ce que la fiction est un antidote au traumatisme, Geoffrine Donadieu ?
J'en suis persuadée. On a besoin de se raconter des histoires. Et si on n'avait pas d'histoire, on aurait beaucoup de mal à avancer, à progresser. Et ce que disait Valentine Gobi tout à l'heure, c'est que il me semble qu'on comprend beaucoup plus de choses à travers la fiction qu'à travers l'autofiction. En faisant le choix d'être dans un texte romanesque, on touche davantage l'universel. À travers les créatures qui envahissent Marge, je crois qu'elle se comprend davantage et se révèle davantage que si elle ne regardait que son nombril. Et les histoires permettent de se construire, permettent de se confronter au réel et bien sûr de le dépasser. Je pense que les histoires, personnellement, m'ont aidé à vivre, mais m'ont aidé même à survivre, en fait.
Séverine Cressan, pour vous, est-ce que la fiction est un antidote au traumatisme ?
La fiction dans le sens des éléments merveilleux. Dans nos récits, il y a aussi beaucoup de... Il y a à la fois une réalité qui est très, très crue, hein, très sordide, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'éléments magiques.
Celle des nourrices, la voilà. Situation des nourrices.
Exactement. Et il y a aussi des éléments magiques. Donc, il y a un enfant qui est confié ou donné, offert par la lune. Un autre enfant qui est offert par le vent. Et moi, j'ai besoin, en tout cas, de croire à cet imaginaire-là. Pour moi, la fiction, ça aide vraiment à vivre, à avoir une autre réalité et en même temps à comprendre notre réalité, à, en tout cas, à la rendre supportable.
Valentine Gobi, Geoffrine Donadieu, Séverine Cressan, on poursuit cette conversation dans un instant. On entrera dans vos ateliers d'écriture.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut.
C'était Henri Salvador, Jardin d'hiver, et nous sommes toujours en compagnie de Valentine Gobi, Geoffrine Donadieu et Séverine Cressan. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Thomas Hosser, vous parliez de la plume de Valentine Gobi tout à l'heure. Une écriture luxuriante, très imagée, très dense. Vous aviez une question à ce sujet.
Oui, tout à fait. Moi, j'adore comment vous écrivez, Valentine Gobi, comment vous, vous travaillez votre matière première, comme vous disiez. Moi, je trouve votre écriture très musicale. Et donc, je me demandais si vous écriviez à l'oreille, peut-être, si vous vous relisiez, en tout cas, à voix haute, après avoir écrit.
Alors, en fait, moi, j'écris avec mes oreilles.
Ah, voilà.
Donc, j'entends mon texte tout de suite. J'ai pas besoin de l'oraliser. C'est très, très poreux, en fait. Les différents sens avec lesquels j'écris se répondent en permanence. Alors, bon, je suis synesthète, alors peut-être que ça explique les choses, mais c'est vrai que un mot, pour moi, a toujours une forme, indépendante de ce qu'il désigne, une couleur.
La graphie
oui.
aussi. La flèche de vive, les flèches.
Ah oui, absolument. Oui, oui. Donc, je ne fais pas vraiment de... Il n'y a pas d'étape dans le processus. En fait, c'est un tout.
C'est un tout. C'est un travail de matière première directe.
Voilà.
Okay. J'ai la même question pour vous, Séverine Cresson. Comment vous écrivez? Est-ce que vous vous relisez à voix haute?
Alors c'est un peu comme Valentine Gobi, j'entends mon texte dans ma tête, après je l'oralise parfois, et justement en le faisant je me dis je devrais le faire plus souvent, parce que je suis très sensible aux allitérations, aux assonances, c'est souvent un mot qui en appelle un autre, alors après évidemment il faut que le signifiant ça colle aussi, mais moi j'aime beaucoup, pour moi un mot c'est aussi comme un petit objet. Je trouve qu'il a un poids physique, il a une saveur dans la bouche. Oui, c'est un monde en soi. Et donc les assembler, pour moi, c'est extrêmement jouissif. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire et que j'y passe beaucoup de temps. J'essaye beaucoup de choses différentes. Je les fais passer d'un endroit à un autre. Je les choisis avec beaucoup de soin. Et vous parliez de la graphie tout à l'heure aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire aussi, calligraphier les mots, voir le dessin qu'ils ont au-delà de leur sens, justement.
Geoffrine Donadieu, comment vous écrivez?
Moi, j'écris avec le ventre. Il y en a qui rient avec l'oreille, c'est le ventre. Non, c'est très organique, c'est très viscéral. Mais après, je dis toujours à voix haute plusieurs fois, mais parce que je viens de l'univers du théâtre et que c'est très important pour moi d'entendre le texte. Mais je dois aussi le vivre et ça passe par le ventre beaucoup plus que par l'intellect.
Et c'est quoi vous ressentez
En fait, je crois que le corps ressent tout. Il ressent les choses, bien sûr, avant la pensée. Et donc, je saurais si l'histoire est juste, si l'histoire est cohérente. Et je pense que ça se ressent dans les tripes, dans la chair. On sait quand on ne se ment pas. Et ça, je crois que c'est extrêmement viscéral. Et quand j'écris un texte, je pense que je l'écris parce que je le visualise, parce que je vois les personnages le réciter sur scène ou derrière la caméra. Donc par conséquent, il y a une forme de scénographie. Cette scénographie amène les mouvements, la gestuelle, et par conséquent, c'est très physique. Et c'est le ventre qui permet de déployer tout cet acte, l'acte d'écrire.
Il y a une chose qui me frappe cette rentrée, c'est le peu de place accordée aux littératures de l'imaginaire. C'est aussi pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir toutes les trois. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez et à quoi ça sert l'imagination, Valentine Gobi?
L'imagination, c'est un pays... C'est mon pays de naissance. C'est le pays où habiter. En fait, le réel ne cesse de poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais à tous les âges de la vie. Alors, plus on est jeune, évidemment, et plus l'imaginaire peut prendre de place et vient au secours, vraiment, des trous qui parsèment les existences des enfants. C'est fondamental. Mais l'imaginaire, c'est aussi un appétit. Je veux dire, c'est parce que, justement, à un moment donné, on n'a pas de réponse qu'on va se mettre à inventer un langage, une façon d'être, une gestuelle pour tenter de trouver sa place dans un monde qui ne décode pas, en fait, les manières d'être. Donc, l'imaginaire, c'est un monde qu'on a tendance à atrophier, à rétrécir avec l'âge adulte, parce que on est plongé dans un bain de réalité qui nous sollicite en permanence et qui dépasse d'ailleurs le territoire dans lequel on existe, par les médias, par la radio, par la télévision, par les journaux. Tout d'un coup, on est sommé, en fait, d'ingurgiter une somme de réel qui est absolument indigeste, même émotionnellement. Et l'imaginaire, c'est cet endroit où on peut trier aussi le réel, on peut choisir ce qu'on a envie d'en conserver, fabriquer des histoires partielles à partir de ce monde qui est trop énorme pour nous. Donc c'est pas un refus, c'est juste un endroit où tout d'un coup, on n'est pas obligé de tout accepter.
Ce que vous me dites, ça me fait penser au rêve aussi.
Alors le rêve, on le contrôle pas. Le rêve, il surgit en fait dans un moment où on ne se maîtrise pas du tout, tandis que l'imaginaire, en tout cas moi...
Est-ce qu'on contrôle la manière dont on trie l'imaginaire ?
Puisqu'on était dans l'atelier d'écriture, l'imaginaire, moi, c'est vraiment une espèce de réserve dans laquelle je vais puiser et je sais en fait ce que je vais... ce que j'ai envie d'y chercher, ou en tout cas ce que j'ai envie de conserver. Parce que, par exemple, si on revient au palmier, j'avais des intuitions, comme je le disais, qui ont été tout à fait déjouées par l'écriture, et on arrive à la fin à une image pour laquelle j'étais impréparée, mais c'est quand même moi qui suis allée dans cette espèce de potager chercher des images, des sensations, des impressions que j'ai cousues entre elles, quelquefois mal cimentées, donc j'ai recommencé le travail plusieurs fois, mais... il y a bien quand même un choix. Mais l'imaginaire, moi je le préfère, parce que c'est l'endroit où on a à la fois de la liberté et la possibilité de décider encore.
Séverine Cresson, est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors moi j'ai un peu du mal à faire la distinction entre le réel et l'imaginaire depuis toujours, je crois. C'est pour ça que j'aime tellement les histoires, parce que pour moi les histoires, même si elles sont inventées, j'y crois comme si c'était la réalité. C'est un peu pareil pour les rêves. Les rêves parfois ils sont tellement saisissants de réalisme que moi quand j'ai rêvé de quelque chose, je pense que ça s'est vraiment passé. Donc voilà, la frontière en fait elle est pour le coup pas...
Même dans votre livre, tout est très poreux.
Oui, j'ai du mal à distinguer. C'est vrai que Sylvaine fait des rêves qui en fait peuvent aussi se réaliser dans la réalité. En fait, le réel me semble souvent irréel. Je suis souvent incrédule face à ce qu'on peut voir. Donc ça a la même valeur à mes yeux. Parfois, pour rire un peu, je dis que moi, je crois toujours au Père Noël. Alors, je sais qu'il n'existe pas, que je ne vais pas le rencontrer, mais il a vraiment une existence propre à mes yeux. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'y croire. Pour moi, il est vraiment... il est vivant. Donc, je ne saurais pas dire à quel moment je m'éloigne du réel, tellement c'est naturel.
Geoffrine Donadieu, à ce sujet, j'aimerais que vous lisiez un extrait de votre roman.
Ensemble, au pays de l'imaginaire, ils vivront des scènes de sexe et d'amour joyeuses, pathétiques, tristes, animales, sacrées. Ils s'enivreront de désir de sa naissance à sa disparition, de sa façon de s'éclipser ou de se faner doucement, de flamboyer et de se consumer. Ils respireront des parfums entêtants, goûteront à l'interdit plus d'une fois. Dans leur monde, tout est moins fade et convenu. Ils ne se censureront pas. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas aller au bout d'une histoire, donc de la vie. La création est le territoire de leur liberté et de leur intimité. Ils inventent toujours et toujours une nuit d'amour sans fin. Car Marge a avalé la nuit. Elle est la nuit. Elle est le ventre de l'univers.
Geoffrine Donadieu, à travers cette histoire d'amour entre Marge et Victor, qui est donc un homme tout aussi cabossé qu'elle, vous racontez la tentative de deux êtres perdus pour se rejoindre par le corps, la parole, la fiction. Vous dites que Marge avale la nuit, comme si elle absorbait tout ce qui l'effraie. Est-ce que vous aviez envie d'écrire une héroïne qui renverse les codes du féminin, justement en assumant son excès et sa démesure ?
Marge est un personnage qui assume tout, qui assume aussi bien ses actions que ses pensées, que ses sentiments. Et ce que je voulais avant tout écrire dans Nuits à venir, c'était cette histoire d'amour entre Marge et Victor, mais aussi, pour en revenir à l'imaginaire, je voulais écrire l'histoire d'amour que j'ai pour l'imaginaire et pour la fiction. Et c'est sur ce territoire que Marge et Victor vont se rejoindre, parce que Marge va raconter ses histoires et que Victor... cet ancien militaire va jouer le rôle de sage-femme et va l'aider à accoucher de ses histoires, parce qu'il se trouve qu'à l'époque où il partait en mission, en opération extérieure, il emmenait des livres avec lui, et dans les moments les plus dramatiques, lorsqu'il avait enfin une pause, une parenthèse, il se perdait comme ça dans des histoires qu'il échangeait avec ses frères d'armes, et finalement il va retrouver cette adrénaline avec Marge qui va devenir doucement sa dernière mission. Ils ne vont pas se retrouver en Afrique ou ailleurs, ils vont se retrouver sur les territoires de l'imaginaire, qui est peut-être le plus grand territoire à conquérir.
Est-ce que la folie, c'est quelque chose qui vous fait peur ?
Qui me fait peur ? Oui, non. C'est la folie, je l'ai beaucoup côtoyée, peut-être dans
C'est quand
dans
même un
nuits,
thème récurrent.
Oui, peut-être parce que je la côtoie beaucoup dans mes nuits d'écriture, mais parce qu'aussi j'ai beaucoup travaillé dans des services pédopsychiatriques auprès d'enfants et d'adolescents et ayant des troubles. Je pense que la folie peut-être me fait peur parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle est discrète, parce qu'on ne la voit pas venir, parce qu'il y a une seconde où ça bascule, on passe de l'autre côté. Et cette bascule-là, je pense qu'à un moment donné, on la connaît tous, on l'a tous et toutes vécu à un moment dans sa vie. Et c'est surtout que voilà, la folie, elle se manifeste chez tout le monde et quel que soit son milieu, quelles que soient ses origines.
Geoffrine Donadieu, vous avez été lue par notre libraire québécois, Mike Viennot, de la librairie Mediapol à Montréal. Mike Viennot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été séduit, vous, par la radicalité du livre de Geoffrine Donadieu.
Oui, bonjour, Geoffrine Donadieu. Je pense pouvoir vous dire que j'ai vécu un grand moment de la rentrée littéraire et c'est grâce à vous. Votre
Merci
roman,
beaucoup.
Riche d'une langue habitée, qui ne patauge pas dans le compromis, expose des solitudes qui se touchent, se repoussent, font des circonvolutions. Nous sommes en plein sable mouvant et souvent émouvant de l'inconstance. Inconstance des rapports familiaux, des rapports sociaux, des rapports amoureux. Ce Victor résistant, cette Violette imparfaite et cette Marguerite, surnommée Marge, mais authentique et presque impossible, presque accessible si elle nous laissait l'approcher, mais elle aime cette liberté. C'est une fleur sauvage qui vit au rebord des gens. Marguerite se plaît à vivre dans la marge. Si parfois il m'a fallu un peu d'attention pour m'accrocher à certains passages, à d'autres moments, la finesse de vos descriptions m'a télescopé dans le récit. Souvent dans la cabane avec Marge, quelquefois dans l'appartement de Victor et parfois dans le lit avec les deux. Ceci est un roman fort, à la poésie rude mais nécessaire, à la prose tendre mais brutale. Vous écrivez la chair d'une manière fine et vous racontez les désarrois de l'esprit d'une façon franche. D'ailleurs, en page 216, vous écrivez « Raconter une histoire, c'est jouir des destins qui naissent sous leurs yeux. » Dans votre cas, c'est laisser les lectrices et les lecteurs se réjouir des images que vous créez pour eux et elles. D'où ma question. Vous aimez se faire rencontrer et découvrir des personnages souvent contradictoires. Est-ce que c'est pour mieux vous challenger lors de l'écriture?
Alors, je ne sais pas si c'est pour me challenger, mais je sais que j'adore prendre deux personnages totalement opposés qui finalement vont se réunir et vont apprendre à s'aimer. Ils vont passer par des phases où ils vont s'apprivoiser, ils vont se détester, ils vont se haïr, ils vont se retrouver. Et puis, ils vont finalement énormément se ressembler et s'accorder. Et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose qui m'obsède. C'est de voir ces univers si différents qui finalement... se réunissent et vont même s'aider pour affronter, en tout cas dans ce roman, dans Une Nuit à venir, pour affronter la vie, et même un promoteur immobilier, et tout un tas de choses. Mais un grand merci pour vos mots qui me touchent.
Merci beaucoup, Mike.
Merci beaucoup.
Alors, il y a un thème qu'on retrouve dans vos trois livres, à toutes les trois, les insomnies, le sommeil perturbé, vive et angoissée la nuit. Dans votre livre, Valentine Gobie, chez vous, Geoffrine Donadieu, Marge a des crises de somnambulisme, et chez vous, Séverine Cresson, bah, par définition, c'est une nourrice, donc elle dort peu. Vous écrivez, Séverine Cresson, on dirait des fantômes tant elles n'en peuvent plus de fatigue. Est-ce que c'est dans cette zone-là, entre le sommeil et la veille, que naît l'écriture, Geoffrine Donadieu?
Moi, je trouve que cette phase-là est extraordinaire et en y réfléchissant, je crois que j'ai compris cela très tôt. Quand j'étais petite, j'adorais me coucher très tôt, non pas pour dormir, mais parce que je découvrais cette phase où on pouvait encore un tout petit peu contrôler ses rêves avant de plonger dans le rêve et de ne plus rien contrôler. Et à l'adolescence, c'est exactement pareil. Je crois que je préférais rester chez moi et j'adorais être au lit. Et je crois que même les après-midi, je préférais être au lit pour imaginer, pour inventer. Et aujourd'hui, je n'hésite pas du tout à faire des micro-siestes quand je suis en création, parce que je sais qu'il y a cette phase où enfin le cerveau va lâcher quelque chose et que justement le ventre va prendre le relais et sera extrêmement sincère.
Valentine Gobie.
Moi, j'aime pas du tout écrire la nuit, alors je me lève plutôt tôt et je suis une fille du jour, en fait. Je ne suis pas du tout une écrivaine de la nuit. En revanche, peut-être là où je peux me retrouver dans quelque chose qu'a évoqué Geoffrine, c'est en tout cas, tu parlais d'entre-deux,
oui.
Ce moment où on est à la fois enfin, entre l'éveil et le sommeil. Alors moi, je vais peut-être lui donner un autre nom, mais en tout cas, c'est à la fois la pleine conscience de soi, donc c'est ça pour moi, le plein jour, et en même temps l'idée que quelque chose arrive, qu'on ne va pas forcément être capable de maîtriser tout de suite. Cette espèce de jaillissement, cette écoute du mot, de la phrase...
Mais chez vous, ça naît de l'écriture.
Ce qui naît, voilà, dans l'écriture. Et ça, c'est presque un processus de dépossession. Voilà, donc être en possession de mes moyens, mais me déposséder en fait de la maîtrise que j'aurai du langage au moment où j'écris, pour après le revisiter la phrase tant qu'il le faut pour la polir.
Séverine Cresson, dans un instant on parle de votre livre, Nourrice, mais d'abord on écoute David Walters, Santico. Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Valentine Gobi, Geoffrine Donadieu et Séverine Cresson. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Et cette semaine, mon conseil lecture, c'est donc votre premier roman, Séverine Cresson, Nourrice, aux éditions d'Alva. Un roman sur l'exploitation du corps féminin, puisqu'on plonge dans la dure réalité des nourrices à emporter. Un système où les femmes des campagnes se louaient pour allaiter les enfants des familles plus aisées de la ville. Comment vous est venue l'idée de ce livre, Séverine Cresson ?
Alors la première fois où j'ai rencontré le personnage de la nourrice, je pense que c'est, enfin même je suis sûre, c'était dans des romans du 19e siècle. Hein. Donc j'aimais beaucoup lire Balzac notamment, et puis bon voilà tous les grands auteurs du 19e siècle. Et ça m'a toujours frappée voilà, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on envoyait des enfants à la campagne ? Que se passait-il pour les mères qui avaient enfanté ces enfants-là, les mères biologiques ? Comment vivaient-elles cette séparation ? Et pour quelles raisons les femmes qui accueillaient ces enfants chez elles acceptaient de le faire ? À partir de ce qui m'intéressait, en fait, c'est le lien qu'elle pouvait tisser avec ses enfants qu'elle recueillait et le fait d'être payée pour cela, qu'elle soit rémunérée. Je me suis dit, ça a forcément aussi une incidence sur le lien qu'elles peuvent créer. Elle savait aussi dès le départ qu'elles allaient en être séparées. Donc c'était ça qui m'intéressait, en fait. J'avais envie d'interroger le sentiment, enfin le lien, en fait, le lien maternel, hein, puisque c'était des mères de lait, qui pouvaient se créer entre la nourrice et l'enfant. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, et à l'issue de ces recherches, bon, qui m'ont pris en fait beaucoup plus de temps que ce que je pensais, je me suis rendu compte que c'était vraiment une industrie, et c'est pas moi qui invente le terme, hein, on parlait vraiment d'industrie nourricière au 19e siècle, et j'ai été vraiment étonnée de ne jamais en avoir entendu parler, et là je me suis dit vraiment, il faut que je donne chair à ces femmes, que je leur donne un corps. Et j'ai eu envie de montrer voilà, leur quotidien et puis de leur donner la parole aussi.
C'est vrai que dans les romans du 19e, on croise beaucoup de nourrices, mais elles sont invisibilisées.
Complètement. Elles ne sont jamais nommées. Alors c'est toujours la fonction, hein, c'est la nourrice, vraiment des personnages plus que secondaires. Elles apparaissent seulement quand les parents justement en parlent ou que de temps en temps ils vont voir les enfants à la ville. Mais ce ne sont même pas des personnages en fait, c'est simplement une fonction. Hein.
Le point de départ du livre, la substitution de bébé, c'est un début de conte de fées. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête?
Alors, quand j'ai commencé à écrire, j'avais vraiment la première scène en tête. Je suis quelqu'un d'assez visuel. Et donc, j'avais cette image de la nuit avec une lune pleine, une lune ronde et rousse. Et l'image d'une clairière avec un enfant abandonné. Et cet enfant couché, donc enveloppé dans un linge, avec la tête qui repose sur un carnet. Donc ça, c'était vraiment mon point de départ. Je savais pas du tout où j'allais aller à partir de cette image initiale. Je savais que cet enfant allait être trouvé par une nourrice et que ce carnet allait jouer un rôle important. Mais voilà, j'ai découvert les choses au fur et à mesure où je les ai écrites.
Je tenais à souligner aussi la beauté De votre langue. Et j'aimerais, avant de terminer l'émission, qu'on l'entende, le moment où Sylvaine découvre l'enfant abandonné, qu'elle nomme l'enfant de lune. Voilà, bah c'est à vous.
Sylvaine démaillote l'enfant, le pose entièrement nu sur son ventre mou, encore humide de lait, s'allonge sur le sol moussu. Petit animal entêté, le nourrisson rampe vers la poitrine offerte, cherche le téton de ses lèvres ouvertes. Il le saisit à pleine bouche, aspire avec tant de force que c'en est douloureux. Le lait jaillit facilement. Pendant que le nouveau-né tète, la nourrice l'enveloppe de sa chaleur, le nourrit de ses caresses, le contient de ses mains câlines. Elle suit la lente progression de l'astre rougeoyant dans le ciel, l'observe décroître au fil de son ascension, en songeant à l'étrange ballet qu'elle a dansé pour venir à la rencontre de l'enfant. Elle emmaillote le nourrisson repu, se lève, le serre contre son cœur, s'avance jusqu'à la lisière de la clairière. Le nouveau-né geint doucement. La lune luisante, parvenue au faîte de sa course, semble la regarder et lui sourire du haut de sa loge souveraine.
Merci beaucoup, Séverine Cresson. On a vraiment l'impression d'un conte de fées. Moi, j'adore votre écriture.
Merci.
Pour finir, deux autres recommandations de lecture au sujet de la maternité. 9 mois de Marie Davia Bourdoncle et Diane Merli, qui est un journal croisé de maternité entre deux femmes, l'une enceinte, l'autre en postpartum. Et je conseille aussi aux éditions de l'Iconoclaste un livre qui s'appelle Être mère et qui est une anthologie de romancières autour de la maternité. On y croise Julia Carninon, Adeline Dieudonné, Claire Berest et d'autres autrices talentueuses. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les trois, Valentine Gobi, Geoffrine Donadieu et Séverine Cresson. Je rappelle le titre de vos livres. Valentine Gobi, c'est donc Le Palmier aux éditions Actes Sud, un roman sensoriel sur l'enfance, la mémoire et la beauté fragile du vivant. On recommande aussi votre livre, Geoffrine Donadieu, aux nuits à venir chez Gallimard pour ce portrait vertigineux d'une femme au bord du monde, ainsi que votre premier roman, Séverine Cresson, Nourrice aux éditions d'Alva en forme de fresque poétique sur la maternité et le corps féminin. Merci enfin à nos libraires du jour, Mike Viennot et Thomas Hausser, ainsi qu'à nos partenaires, la RTBF, la RTS et Radio-Canada, qui coproduisent cette émission. Cette semaine, il y avait Lilian Allôme à la réalisation, Mathias Alléon à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivi à la programmation. Merci à eux et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.